Notre invité Pierre-Yves Danzé est né dans un des berceaux de l'industrie horlogère, la Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui, il vit à Kyoto, où il enseigne l'histoire à l'université de Kyoto.
Pierre-Yves Danzé, vous êtes installé bien loin pour finalement étudier le tissu de l'industrie de votre région. Est-ce que c'était pour prendre du recul ?
Plus que pour prendre du recul, au départ, l'idée était d'étudier l'industrie horlogère japonaise elle-même. J'avais envie de comprendre comment s'est développée cette industrie qui a remis en cause et qui a remis en cause l'existence même de l'industrie horlogère suisse. Et puis je suis resté en fait. Mais vous savez, la planète horlogère est petite, comme on dit, qu'on trouve en Suisse ou au Japon. On rencontre un peu les mêmes personnes.
Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'évolution technologique et le savoir-faire helvétique, la minutie, la précision, qui entre tout à fait dans le mythe hein, de l'industrie sauvée par le savoir-faire. Et vous n'êtes pas tout à fait, je crois, d'accord avec cette théorie non plus.
Non, disons, seulement il est nécessaire d'avoir des savoir-faire d'excellente qualité pour produire des montres de grande précision. Toute la question de savoir quelle est la relation entre le savoir-faire et le territoire. Est-ce que l'industrie horlogère suisse traditionnelle connaît un excellent développement actuellement parce qu'on a ces savoir-faire en Suisse? Ou est-ce que c'est peut-être pas le contraire? Est-ce que c'est parce que l'industrie doit rester en Suisse, à cause de la législation sur le SwissMade, que les entreprises investissent dans le maintien et le développement des savoir-faire? Je pense que c'est plutôt cette seconde relation qui est importante, parce que les technologies dans l'horlogerie, comme dans n'importe quelle industrie, voyagent à travers le monde. Les Japonais savent faire des montres aussi précises et d'aussi bonne qualité que les Suisses depuis plusieurs dizaines d'années.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, on apprend, par exemple, que Seiko, hein, au Japon, sait parfaitement faire des montres de précision mécanique, mais elles ne vont pas les faire parce que, du point de vue marketing, ce n'est pas intéressant de ne pas avoir un Swiss Made.
Oui, tout à fait. Les montres de complications, notamment les tourbillons, sont fabriquées maintenant un peu partout dans le monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer chez Seiko, il y a quelques années déjà, l'ingénieur qui a déposé le brevet chez Seiko pour les tourbillons. Alors, il a mené des recherches dans ce domaine depuis le milieu des années 90, il dépose un brevet. Mais Seiko n'a jamais produit de montre tourbillon parce que le produit serait beaucoup trop cher pour une montre japonaise. Donc on voit vraiment que c'est le marketing qui détermine l'innovation technique, c'est quand même qu'on puisse parler d'innovation technique pour des montres de haute complication.
Et puis au niveau du marketing, y a un homme dont on n'a pas encore cité son nom, central, hein, c'est Nicolas Hayek. C'est vraiment sa personnalité qui a pu arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui.
Sa personnalité et son équipe, un bon chef doit toujours s'entourer d'une bonne équipe. Mais c'est clair que Nicolas Hayek a joué à mon sens un rôle fondamental dans la politique marketing et aussi dans les années 80 dans la restructuration de l'industrie horlogère suisse. Pour la première fois, on a eu affaire avec Hayek à des restructurations à vaste échelle, ce qui a mené à la force d'État actuellement. L'État et la production d'ébauches qui est aujourd'hui une force importante du Swatch Group est née et restructurée dans les années 80. Mais Hayek n'est pas seul. Il y a autour de lui toute une équipe emmenée notamment par Jean-Claude Bizère, qui à mon sens est une sorte de génie marketing qui a énormément apporté à cette entreprise dans le sens où les gens autour d'Hayek et Nicolas Hayek lui-même ont montré pour la première fois dans l'horlogerie qu'il était possible de faire à partir d'une montre. Une montre n'est plus un produit, c'est l'occasion de parler de toutes sortes de choses.
Dans ce livre, vous étudiez une histoire qui est assez proche de nous, hein, l'histoire du Swatch Group. Est-ce que étudier le passé vous permettrait ou vous permet d'évaluer le futur et qu'est-ce que cela nous apprend sur les années à venir dans l'horlogerie suisse?
Ça m'apprend... Il n'y a pas de miracle, ça n'apprend rien sur l'avenir lui-même. Autrement, je ne travaillerai pas dans une université, mais dans une banque privée, je deviendrai très riche. Mais plus mise à part, je pense que c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Parce que le Swatch Group n'est pas seul. Dans le dernier chapitre, je présente les concurrents du Swatch Group. Ça permet de mettre en lumière les différentes stratégies et les différentes organisations des grands groupes horlogers. Ce qui est intéressant dans le cadre du Swatch Group, c'est que c'est la seule entreprise du monde qui s'est positionnée sur l'ensemble des segments du marché. On a ailleurs en Suisse ou en Europe, comme la LVMH ou Richemont, des entreprises qui sont positionnées uniquement dans le luxe, et puis d'autres entreprises, en particulier au Japon ou aux États-Unis avec Fossil, qui sont centrées sur le moyen de gamme. Mais Swatch Group est la seule qui ait des montres flic-flac à quelques francs, jusqu'aux montres breguées à des dizaines de milliers de francs. C'est l'entreprise qui propose toute cette gamme de produits et qui possède un bras industriel pour ne dépendre de personne. Donc je pense que c'est aussi la force de cette entreprise en comparaison avec d'autres.